Bonjour, vous êtes en compagnie de Morgane sur CFM pour la troisième émission des Hommes sont des animaux comme les autres, l'émission mensuelle consacrée aux animaux et aux thérapeutiques naturelles. Aujourd'hui, on va continuer le reportage consacré à Anna Evans, vétérinaire pratiquant la communication intuitive avec les animaux. Ensuite, je vous parlerai des conditions de vie des canards et des oies élevées pour le foie gras, ainsi que les alternatives qui existent. On retrouvera aussi Eric Darley, qui va nous donner des indications sur les huiles essentielles cicatrisantes juste après la musique. Rejoindre sur CFM, c'est l'émission Les Hommes sont des animaux comme les autres. Comme à chaque mois, j'accueille Eric Darley, spécialiste des huiles essentielles. Aujourd'hui, Eric, tu veux nous parler des huiles essentielles pour la cicatrisation.
Oui, alors pour la cicatrisation, j'en ai parlé là précédemment, c'était l'huile essentielle de géranium, géranium rosa ou géranium bourbon. Ça active la cicatrisation, c'est un petit peu hémostatique. Et ça permet d'activer ça. Souvent, il vaut mieux l'associer à une huile essentielle immunostimulante. Je parlais déjà du tétri précédemment. Ben, là aussi, c'est intéressant. Le Ravinsara aussi est intéressante. Mais là, pour les brûlures, on ne sait jamais, on avait des cicatrisations liées aux brûlures. C'est une plaie liée à une inflammation qui vient de l'extérieur, pas forcément du corps lui-même. Donc là, il faut calmer la brûlure. La menthe poivrée permet, avec son effet glaçant, un côté antalgique et surtout un côté très, très refroidissant, très, très intéressant. Après, on peut avoir d'autres actions anti-inflammatoires secondaires par des huiles essentielles qui ont en général un côté citronné. Alors, je parle à l'eucalyptus citriodora, qui n'a rien à voir avec les autres eucalyptus par les molécules qui le constituent, hein, qui est riche en citronella, le citronellol, et donc très très anti-inflammatoire. On a la lycée citronnée. On a la mélisse, elle est très très chère et quand même un peu délicate d'emploi, elle est plutôt employable pour des problèmes d'émotivité. Et aussi la camomille bleue du Maroc, qui est une huile essentielle assez particulière. Elle est bleutée, sa molécule vient de la distillation, elle n'est pas présente dans la plante. Et elle est très intéressante pour certains processus inflammatoires. Donc associer un petit peu d'eucalyptus citriodora, de camomille bleue du Maroc, son nom scientifique c'est Tanacetum annuum. Et pourquoi pas un peu de menthe poivrée, pour les soins des brûlures, c'est extra. Alors en conclusion, pour employer efficacement ces huiles, on peut aussi mélanger ces huiles essentielles à du millepertuis, l'huile végétale de millepertuis, qui est une macération en phytothérapie des sommités fleuries de millepertuis dans l'huile végétale. Et alors ça marche bien parce que c'est assez connu comme étant un très très bon anti-inflammatoire, peut-être un peu moins efficace directement que les huiles essentielles, mais dans le temps c'est vraiment très très intéressant. Et donc je rappelle un peu les dosages, 1 ml d'huile essentielle c'est à peu près 30 à 35 gouttes. Et une cuillerée à café d'huile végétale c'est à peu près 15 ml. Donc vous mélangez entre 1 jusqu'à 10%. D'huile essentielle pure dans de l'huile végétale. Voilà. Et vous avez à peu près, donc, par exemple, une cuillère à café de 15 ml. Vous mettez à peu près une dizaine de gouttes. Vous pouvez mettre une dizaine de gouttes et puis mélanger ça, mettre ça sur la plaie, sur la brûlure, 3-4 fois par jour pendant 2-3 jours, quoi.
On va rappeler que l'emploi des huiles essentielles doit être fait avec précaution et qu'elles ne doivent pas être utilisées sans connaissance ou conseil d'un professionnel. Donc merci beaucoup Eric pour ce partage.
Et merci à vous de m'avoir invité.
À bientôt. Never open myself this way. Life is ours, we live it our way. Hold these words I don't just say, and nothing else matters. Yeah, trust us, seek, and I find in you every day for us something new. Donc aujourd'hui, je vous propose de retrouver Anna Evans, qu'on avait déjà rencontrée la dernière fois. Donc Anna Evans, qui est vétérinaire et qui pratique la communication intuitive avec les animaux. Bonjour Anna.
Bonjour Morgane.
Donc la dernière fois, on a expliqué un petit peu comment tu en étais arrivée avec ton parcours de médecine, enfin, à partir de ton parcours de médecine vétérinaire classique, en arrivée à communiquer avec les animaux. Et aujourd'hui, on s'intéresserait au fonctionnement de la CI. Donc communication intuitive, puisqu'on a dit que ce n'était pas de la télépathie, qu'est-ce que c'est exactement ?
Oui, à la communication intuitive, ça se définit aussi bien par ce que ça n'est pas que par ce que c'est. Donc peut-être que je vais dire deux mots d'abord pour dire ce que ça n'est pas, parce que ça va aider un petit peu à se clarifier les idées. La communication intuitive, d'abord, ça n'est pas de l'éthologie, c'est-à-dire ça n'est pas l'observation extérieure de ce que peut faire un animal dans sa journée, dans sa vie sociale, etc. Qu'est-ce qu'il mange ? Donc toute cette étude-là, ça n'est pas de la communication intuitive. C'est pas non plus du dressage, c'est-à-dire que c'est pas fait pour... ça n'a pas pour but d'obtenir un comportement particulier d'un animal par une répétition d'action, etc. C'est vraiment quelque chose qui appartient à une autre dimension, hein, donc du dressage ou de l'éducation, puisque les deux termes sont possibles en fonction des espèces. Ça appartient à une autre dimension qui est ce qu'on appelle la résonance, qui fait appel à, donc un mécanisme qui fait appel à des théories comme la théorie des champs morphiques, par exemple. Alors c'est un petit peu compliqué de parler de tout ça, mais je voulais quand même citer le terme parce que on se retrouve là dans une dimension qui est une dimension un peu mystérieuse et mal connue. Mmh. C'est une manière de communiquer donc avec les animaux qui n'est pas une des méthodes traditionnelles, une des approches traditionnelles qu'on connaît. Hein, donc faire obéir un animal, éventuellement en lui faisant faire un apprentissage, ou s'intéresser à comment il fonctionne dans sa journée, c'est encore autre chose. Là, on est dans un domaine où on fait appel à notre propre dimension intérieure, à nous, les êtres humains, qui est aussi une dimension animale. En nous, il y a une dimension animale qui va donc réagir animalement. On dit bien, par exemple, que quand quelqu'un nous fait peur, on a les poils qui se dressent sur la tête ou sur les bras.
Ou la chair de poule.
Ou la chair de poule, voilà. Hein, donc, ce sont des termes qui font bien référence à notre réaction animale. Et là, on peut, avec la communication intuitive, faire interagir volontairement notre dimension animale avec l'animal donc, qui se trouve en face de nous. Donc, on fait ça par un phénomène de résonance, c'est-à-dire qu'il ne se passe rien, il ne se passe pas nécessairement des actions à l'extérieur, il se passe qu'on est en train de faire attention en nous à ce qui réagit animalement à une situation donnée. Et donc, c'est vraiment observer en soi, en installant assez de lucidité, assez de disponibilité, assez de place pour s'observer fonctionnant en relation avec l'animal.
D'accord.
En résonance avec l'animal, donc.
Et alors, est-ce qu'il n'y a pas une notion d'anthropomorphisme là-dedans, justement ?
Alors, clairement, il y a une notion d'anthropomorphisme, mais ce qu'il faut se dire, hein, l'anthropomorphisme, ça veut dire anthropos, l'homme, et morphisme, la forme. Ça veut dire que ce que l'on considère, on le considère à travers le filtre de l'humain. C'est-à-dire que nous, si on ne voit pas la nuit, eh bien on a du mal à imaginer ce que peut voir un animal qui voit la nuit, comme par exemple un loup. L'anthropomorphisme, c'est ça, c'est quelque chose qui nous empêche de prendre conscience vraiment de ce que l'autre vit. Mais quand on explore le monde, la réalité qu'il y a autour de nous, c'est-à-dire, je sais pas, les couleurs, les odeurs, etc., on est obligé de le faire à travers nos capacités humaines, c'est-à-dire qu'on ne peut pas échapper à l'anthropomorphisme. Mmh. Et même quand on fait du dressage, par exemple, ou des activités liées à l'animal qui sont tout à fait... dirais, indiscutable et établi, etc., eh bien, on est aussi dans l'anthropomorphisme. Mmh. Donc, on ne peut pas échapper à l'anthropomorphisme. On peut juste être vigilant et essayer d'être précis. Par exemple, un chien n'est pas un enfant. Mmh. Donc oui, on peut faire attention à cette réalité, mais on ne peut pas évaluer ce qu'est un chien autrement qu'en étant nous un humain.
Oui, il faut faire attention justement quand on reçoit une information d'un animal à ne pas l'analyser de la mauvaise manière ou l'interpréter.
Il faut toujours avoir en tête que l'autre n'est pas comme nous, et ça c'est vrai que ce soit que l'autre soit un être humain ou un animal. Donc à partir du moment où on accepte et où on met le principe fondamental qu'il y a une différence, on va être prudent. Et c'est ça qui va permettre qu'on échappe à la, au grand épouvantail de l'anthropomorphisme.
Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe exactement dans une communication, puisqu'on a vu ce que la CI n'était pas ?
Alors, il se passe quelque chose qui est en fait à la fois tout à fait mystérieux, tout à fait intime, et en même temps connu de tous, connu de chacun de nous. On a tous vécu une expérience similaire à ce qui est proposé en communication intuitive avec les animaux. On a pu le vivre avec un bébé, on a pu le vivre avec une personne âgée, on a pu le vivre avec quelqu'un, un être humain, je dirais notre conjoint, etc., ou avec un animal. Ce qui se passe, c'est quelque chose d'assez simple, en fait. Par contre, le mécanisme pour y arriver volontairement est assez délicat, parce que notre habitude de vie n'est pas de contrôler ou de pouvoir piloter notre monde intérieur. En général, nous sommes habités par toutes sortes d'émotions, on a des pensées qui nous traversent dans toutes les directions, et puis ensuite on tombe de sommeil. Donc il y a cette, je dirais, cette espèce de chaos intérieur qui empêche qu'on puisse être attentif à la dimension qui se met en œuvre dans la communication intuitive. Mmh. Mais cette dimension, elle existe, seulement elle n'existe pas d'une façon volontaire. Mmh. Alors je vous donne un exemple. Moi, je perds souvent mes clés. Donc, quand j'ai perdu mes clés, ben, j'ai le choix. Soit je renonce à les chercher, donc à ce moment-là, je ne me mets pas en marche pour aller dans les différents endroits où elles pourraient être, etc. Je renonce à les chercher, donc là, j'abandonne carrément au niveau physique, au niveau concret. Ou alors, je m'énerve et je me dis, bon, ça fait encore une fois de plus que tu as perdu tes clés. Et là, j'entre dans l'agacement, etc. Et ça va être difficile pour avoir cette espèce d'état intérieur de calme où tout d'un coup je saurais où sont mes clés. Mmh. Hein. Autre possibilité, c'est que je commence à raisonner en me disant, bon, je suis entrée par telle porte, j'avais les clés de la voiture avec le porte-clés rouge, et j'essaie de reconstruire mon parcours pour le faire ensuite à pied, et puis de voir où est-ce que j'ai bien pu les poser. Donc ça, c'est l'attitude du raisonnement. Dans notre vie, nous utilisons ces trois attitudes, c'est-à-dire on va se mettre à la recherche des clés, on fait marcher nos jambes, comme on dit, ou bien on va être dans une réponse émotionnelle, ou on va être dans une réponse mentale par rapport à une situation donnée. Mais dans certaines situations, alors ça nous arrive assez rarement, mais souvent dans les situations d'urgence, dans les situations où c'est vraiment grave, là on va utiliser ce qu'on appelle le sixième sens, c'est-à-dire l'intuition, quelque chose qui va faire que, dans le cas de mes clés, par exemple, je vais me dire, bon, maintenant, il me faut ces clés, donc je me décide vraiment à aller me mettre à leur recherche. Je me dis aussi, bon, ça sert à rien de s'énerver, il vaut mieux que je reste calme. Je me dis aussi, ça sert à rien de passer toutes sortes d'hypothèses dans ma tête, je vais plutôt faire le vide dans ma tête. Et là, je vais être dans un espèce d'état de centrage, un état tout à fait particulier, un état de vide intérieur, de disponibilité, où je vais comme appeler mes clés, et là, il va se passer que je vais savoir tout d'un coup où sont mes clés. Mmh. Et bien sûr, je vais aller voir et je vais les retrouver sur le bord de l'évier, par exemple. Donc, dans la communication intuitive, on fait la même chose, c'est-à-dire qu'on va être décidé à utiliser cette espèce de dimension très subtile qui ne peut être entendue que quand on fait taire les autres, et on va l'appliquer, cette dimension, pour Savoir ce que vit un animal pour rencontrer, je dirais par exemple, les causes des pleurs d'un bébé ou ainsi de suite, puisque la communication intuitive peut aussi s'utiliser avec d'autres interlocuteurs que les animaux.
Du moment qu'ils n'ont pas de parole, en fait.
Même s'ils ont de la parole, mais ce qu'il y a, c'est que c'est beaucoup plus compliqué avec l'être humain parce qu'il y a des mécanismes. L'être humain est beaucoup plus compliqué que l'animal. Donc, c'est beaucoup plus difficile d'aboutir à quelque chose par cet outil. Il y a d'autres outils qui sont disponibles pour communiquer avec les humains au-delà, je dirais, de la parole. Donc là, avec l'exemple des clés, eh bien, je pourrais décider, par exemple, que je veux savoir pourquoi mon chien gratte à la porte toute la nuit. Et au lieu de mettre mon attention sur retrouver mes clés, je vais mettre mon attention sur cette question. Et puis, je vais m'assurer que mon chien est bien disponible au moment où j'entreprends cette recherche. Et je vais faire attention à son accord. Alors, si je dis je vais demander sa permission, c'est une chose un petit peu qui pourrait paraître un peu absurde, mais pourtant qui est très importante, parce qu'on s'aperçoit que l'animal, en fait, semble participer d'une façon tout à fait consciente à ces échanges. Et ça a été écrit, ça a été ré étudié, répertorié, que les animaux peuvent échanger dans ce mode entre eux. Donc, il y aurait bien une dimension consciente et volontaire de la part de l'animal. C'est très intéressant parce que quand on commence à entreprendre ce genre d'échange avec des animaux, on s'aperçoit que leur comportement extérieur change. Et ça, ça peut être remarqué par des personnes qui ne sont pas dans la communication, qui sont juste à côté en train de lire le journal ou d'être là, présent dans la pièce. Donc, il semble bien qu'il y ait une participation volontaire, expresse de la part de l'animal.
D'accord.
Voilà, donc c'est tout ce mécanisme-là qui permet d'aller chercher des informations dans un autre plan que celui auquel on est habitué en tant qu'être humain, c'est-à-dire la parole, etc. Et après, la communication intuitive n'est pas seulement ça, elle est aussi la manière de traiter cette information pour la rendre utilisable d'une façon fiable. Et là, c'est encore tout un processus.
Et oui. Donc on continuera après une pause musicale, donc en compagnie d'Anna Evans, vétérinaire qui pratique la communication intuitive.
Yeah.
Donc on revient en compagnie d'Anna Evans, vétérinaire qui pratique la communication intuitive avec les animaux. Donc on était en train d'expliquer le fonctionnement justement de la communication intuitive. Et donc on va continuer dans cette lancée. Donc on a expliqué voilà comment ça se passe, mais maintenant au niveau de l'interprétation peut-être de ce qu'on peut recevoir, comment ça se passe en fait ?
Oui, alors la difficulté en fait, une fois qu'on a réussi à apaiser notre monde intérieur et à vivre quelque chose dans cette espèce de dimension mystérieuse là, dans ce monde du silence, la difficulté c'est vraiment de savoir ce qu'on va faire de cette information, parce que l'information qui arrive n'est pas une information déjà analysée, c'est une information brute. Comme peuvent l'être les gestes d'un animal, un chien qui vous aime et qui va vous sauter dessus quand vous êtes assis sur le canapé, c'est sa façon de vous exprimer qu'il vous aime. Et donc là, on doit se retrouver avec, je dirais, l'obligation, encore une fois, de décrypter des informations qui nous arrivent sous forme de gestes, sous forme d'images, sous forme de ressentis dans le corps. Tout d'un coup ça lance dans le bras alors qu'on n'avait pas nous mal dans le bras, etc. par exemple.
Donc on peut ressentir des choses dans notre propre corps en fait quand on est en état de communication.
Oui, on peut, mais c'est bien sûr c'est passager, hein, ça disparaît ensuite quand on arrête la communication. On peut aussi avoir même notre sens de l'odorat qui va se décupler si on communique avec un animal qui a un odorat très important et nous intéresser, trouver par exemple très agréable une odeur de souris si on est en train de communiquer avec un chat. Donc ça modifie un petit peu effectivement notre système de repères personnels. Donc une fois qu'on a cette information, par exemple, qu'il y a une odeur de souris à côté et que c'est très agréable, eh bien à nous de chercher à comprendre finalement qu'est-ce que ça veut dire, c'est-à-dire est-ce que ce chat désirerait manger une souris, est-ce qu'il nous informe qu'il est un bon chasseur, etc. Et donc tout ça, c'est la phase la plus délicate en fait, parce que c'est là où on doit faire très très attention à ne pas projeter nos propres désirs ou craintes, et à vraiment laisser la disponibilité à l'animal, et peut-être même avoir le courage de reposer des questions pour préciser un petit peu ce qui se passe. Une communication, c'est vraiment comme un travail d'interprète entre deux langues. Parfois, on doit demander à la personne de préciser sa pensée. Donc là, on le fait auprès de l'animal, de préciser ce qu'il a voulu exprimer pour que ça soit bien clair pour nous.
D'accord. Et donc, au niveau des messages qui peuvent nous faire passer, des sentiments, est-ce que ce sont des fois des choses totalement étrangères à ce qu'on a l'habitude, nous, de ressentir, ou est-ce que ce sont des sentiments qui se rapprochent de ce qu'on connaît ?
Alors, les animaux sont capables de sentiments. Je pense que ça, c'est déjà quelque chose de très, très important. Les animaux sont capables d'émotions, hein, et ils sont capables de la même richesse, de la même palette d'émotions que nous. Ils sont capables d'avoir le sens de l'humour, ils sont capables d'avoir du chagrin, d'avoir des peurs, etc. D'accord. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie. Hein. On ne se rend pas compte que un animal, par exemple, qui est enfermé dans une cage peut souffrir, qu'un autre peut faire une dépression parce qu'il est triste d'avoir perdu son compagnon de pré, par exemple, dans le cas d'un cheval. On ne se rend pas compte non plus de l'importance de cette réalité émotionnelle dans la vie d'un animal. C'est un petit peu, alors là, vous allez peut-être me taxer d'anthropomorphisme, mais c'est un petit peu comme un enfant. Hein. Pour un enfant, l'émotion est quelque chose de très fort parce qu'il ne va pas forcément savoir la mettre en perspective avec sa vie. Mmh. Il va se sentir abominablement triste parce que son frère lui a pris son vélo. Et la minute d'après, il sera complètement gay. L'enfant, parce qu'on lui aura proposé un autre jeu. Donc l'enfant va vivre l'émotion pleinement, sans recul. Et l'animal est souvent dans ce cas-là. Donc c'est vrai que le monde émotionnel de l'animal est quelque chose de très très intense. Et qu'on doit absolument en tenir compte dans les relations avec lui.
D'accord. Et alors justement, qu'est-ce qu'on peut apprendre d'eux quand on communique avec eux? Est-ce qu'on peut par exemple améliorer les relations avec notre animal de compagnie? Ou alors si on travaille avec des animaux dans une ferme, est-ce qu'on peut améliorer certaines choses en communiquant avec eux?
Alors oui, c'est certain. Par exemple, il y a un moment où le sevrage va être, je dirais, mieux accepté par le jeune et par la mère dans le cas d'un élevage, que ce soit des moutons, des vaches, des chevaux ou autres. Bien sûr, les éleveurs qui sont attentifs vont sentir ou vont observer des gestes, hein, quand la mère commence à pousser son veau, ou quand il y a, quand elle n'a plus de lait aussi. C'est pas forcément un geste, mais enfin c'est quand même un signe qui va donner des indications que là il faut commencer à les écarter l'un de l'autre et puis à trouver des solutions pour nourrir le veau autrement. Donc tout ça, ce sont des choses qu'on peut faire de l'extérieur. Mais avec la communication intuitive, eh bien, on va pouvoir identifier si le veau se sent prêt et s'il est, je dirais, à l'aise dans sa bande de veau une fois qu'on l'aura écarté des mamans, ou bien si le veau est complètement perdu, s'il est traumatisé par cette séparation. Et à ce moment-là, on va pouvoir, je dirais, remédier à la chose, parce que un animal qui est traumatisé, il va moins bien manger, il peut se blesser plus facilement, ça va provoquer des problèmes dans la vie sociale, enfin ça va faire comme nous, il va y avoir des conséquences.
Oui, donc l'émotionnel peut tout à fait créer des conséquences néfastes.
Oui, néfastes et positives. Hein. Un animal qui est, par exemple, comment choisir entre plusieurs poulains qu'on veut acheter parce qu'on veut faire de la compétition ou de la reproduction, ou comment choisir un chien pour accompagner ensuite des aveugles et pour lui faire passer toute cette longue et je dirais intensive éducation. En gardant sa motivation, eh bien, on va s'intéresser justement à ses caractéristiques psychiques. Si c'est un animal solide, confiant, ça ne sera pas du tout la même chose que s'il est craintif, etc. Alors, parfois, ça se voit dans le comportement, mais pas toujours. Il y a des nuances, et puis, il y a aussi des objectifs qui ne vont pas forcément être les mêmes. On ne veut pas tous avoir un cheval de concours. Il y en a qui veulent avoir un cheval pour faire autre chose. Mmh. Voilà. Donc tout ça, ça va être très très utile pour compléter, je dirais, les méthodes d'élevage habituelles.
Oui. Donc on peut agir avec ça, on peut aider l'animal à se sentir mieux éventuellement, ou à exprimer certaines choses, ou comprendre même peut-être pourquoi il réagit de telle ou telle manière, alors qu'on n'a pas forcément la réponse qui est sous les yeux.
Alors oui, d'abord on peut mieux le connaître, donc ça c'est ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure. Et puis ensuite, c'est sûr que ça va nous donner des clés pour agir avec lui d'une façon appropriée. Si c'est par exemple un cheval qui ne veut pas monter dans un camion parce qu'il est complètement paniqué, c'est pas du tout pareil que si c'est un cheval qui a mauvais caractère. Si c'est un cheval qui a mauvais caractère, on va le contraindre un peu. S'il est paniqué, on va le rassurer. Et ça va... Il ne faut pas faire l'inverse. Ça ne va pas être efficace. Donc, agir avec eux d'une façon plus appropriée, d'une façon plus juste aussi. Hein. Par exemple, pour continuer avec les chevaux, il y a énormément de chevaux qui ont du mal avec le fait d'être montés. Non, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas être montés, c'est pas parce qu'ils ne peuvent pas faire les exercices qu'on leur demande, mais c'est parce qu'ils ne savent pas exactement ce que veulent les cavaliers.
Ils ne comprennent pas, en fait.
Ils ne comprennent pas, ils sont confus. Et donc, ça leur donne de l'appréhension par rapport au moment où il y aura du travail qui va être demandé. Ça va aussi leur donner des comportements parfois d'évitement ou voire de rébellion qui ne sont pas justifiés par une douleur physique, qui ne sont pas justifiés par la manière dont le cavalier blesse ou ne blesse pas son cheval. Donc ça, c'est pas forcément un abus, ça peut être tout simplement que l'animal est perdu émotionnellement, qu'il ne sait plus du tout ce qu'on lui veut, et donc il perd pied.
D'accord.
Il perd courage, il perd confiance. Donc tout ça, ce sont des choses qui vont être très très bien gérées. En fait, la communication intuitive est adaptée surtout à améliorer une relation, pour faire d'une relation quelconque une bonne relation, ou pour comprendre pourquoi une mauvaise relation s'est développée de cette manière, et avoir, des outils très précis pour la transformer.
D'accord.
C'est un outil de relation, comme toutes les communications.
Et est-ce qu'une personne qui n'a pas suivi de cours pour apprendre la communication intuitive, est-ce qu'elle peut communiquer? Est-ce qu'il y a déjà des gens qui le font sans vraiment le savoir, peut-être? Ou comment on peut accéder à cet état intérieur pour communiquer, en fait?
Alors, suivre un cours, c'est vrai que c'est bien parce que ça permet d'avoir rapidement une méthodologie précise. C'est comme quand on veut faire du ski, si on prend un moniteur au début, eh bien on saura tout de suite.
C'est plus facile.
On évitera peut-être une ou deux chutes. Et puis, on saura tout de suite avancer et donc on va progresser rapidement. Et puis, on aura une bonne technique pour atteindre ensuite des niveaux plus hauts. Mais de toute façon, il faut savoir qu'à ski, si on se met en haut d'une pente et qu'on chausse des skis, on va descendre. Hein, c'est un phénomène naturel. Alors, ça ne veut pas dire qu'on peut préjuger de l'état dans lequel on arrivera en bas, mais ça veut dire que dans la communication intuitive, il y a exactement le même processus, c'est-à-dire que la communication intuitive est quelque chose de naturel. Si on essaie d'entrer en relation avec un animal en n'ayant jamais entendu parler de cet outil, on va de toute façon pratiquer une forme de communication qui sera une communication d'animal à animal. Mmh. Elle va être assortie de mots parce que nous avons l'habitude d'utiliser des mots quand on veut communiquer nous, même si l'animal ne sait pas ce que ces mots veulent dire. Il va aussi être informé sur nos intentions par le son de notre voix, par le ton, par éventuellement des gestes qu'on pourrait faire. Si on sort un morceau de viande de sa poche, c'est beaucoup plus facile pour attirer un chien que si on sort un bâton. Hein. Donc, tout ça, ce sont des choses que tout le monde connaît. Seulement ensuite, pour les mettre en œuvre d'une façon précise, ça va pas forcément être facile spontanément. Mmh. Donc, on peut s'entraîner sans avoir fait de formation. Il y a rien qui empêche personne de le faire. Mmh. C'est accessible à tout le monde, mais si on fait un cours, on avance plus vite. Je crois que c'est ça. Hein, c'est ça le résumé.
Donc, merci beaucoup pour cet échange.
Je vous en prie.
Voilà, donc c'était Anna Evans, vétérinaire qui communique avec les animaux. Donc, on peut peut-être redonner le nom du site internet où on peut retrouver tout un tas d'informations sur les stages, les livres. Voilà.
Oui, alors il s'agit de www.communicationintuitiveenunseulmot.com.
Voilà, merci beaucoup Anna.
Merci.
Au revoir.
Vous êtes toujours en compagnie de Morgane sur CFM dans Les Hommes sont des animaux comme les autres. On va continuer l'émission avec un sujet épineux par ces périodes de fête qui n'est pas forcément agréable à entendre, le foie gras. Mais l'idée est de mettre un peu de conscience dans nos assiettes au moment des préparatifs des fêtes de fin d'année. Partager, faire la fête, déguster et se faire plaisir, oui, mais pas au prix de la souffrance de l'animal. D'autant qu'il existe d'autres alternatives dont nous parlerons. Revenons donc sur ce qu'est à la base le foie gras. Il est important de connaître les conditions de vie des animaux qui sont élevés pour produire du foie gras, majoritairement des canards à 98% et des oies à 2% qui représentent pas loin de 38 millions d'animaux en France chaque année. Avec près de 3/4 de la production mondiale, la France est de loin le premier pays fabricant de foie gras dans le monde. Quoi qu'on en dise, le gavage est une opération pénible et douloureuse pour l'animal, destinée à le rendre malade. Certaines personnes choisissent d'occulter ce paramètre car cela les dérange, mais cela ne change rien au fait. L'industrialisation de la production de foie gras n'a fait qu'accroître les souffrances. Le foie gras est une production industrielle dominée par de grands groupes. Les petits producteurs traditionnels ne réalisent que 12% de la production. Mais dans les deux cas, le foie de l'animal est rendu malade. La réglementation a effectivement pris la souffrance animale en compte et des lois ont été votées dans ce sens. Les choses avancent, mais sont encore totalement insuffisantes au regard du consommateur. Et malgré cela, la France continue de produire toujours plus, violant la loi. Comprenons bien, le foie gras est illégal selon la réglementation française et européenne. En effet, d'après l'arrêté ministériel du 30 mars 2000, il impose que les animaux doivent recevoir une alimentation saine, adaptée à leur âge et à leur espèce. Ce qui n'est pas le cas, on va le voir après. La directive européenne sur la protection des animaux dans les élevages indique qu'aucun animal ne doit être alimenté ou abreuvé de telle sorte qu'il en résulte des souffrances ou des dommages inutiles. Et enfin, la recommandation européenne concernant les canards utilisés pour produire du foie gras interdit les méthodes d'alimentation et les additifs alimentaires qui sont source de lésions, d'angoisses ou de maladies. Sont proscrites aussi celles qui peuvent aboutir au développement de conditions physiques ou physiologiques portant atteinte à leur santé et au bien-être de l'animal. Un rapport du Comité scientifique pour la santé et le bien-être des animaux de la Commission européenne de 1998 a conclu que le gavage est néfaste pour le bien-être des animaux. Il provoque anxiété, stress et douleur chez l'animal. Le nombre de fractures est très important, 30 à 70%, et le taux de mortalité est bien supérieur à la normale. Le gavage est déjà interdit dans 12 pays de l'Union européenne, dont des pays comme la Pologne et l'Israël, qui étaient dans les plus gros producteurs de foie gras. L'abolition de cette production a été décidée en raison des grasses souffrances qu'elle inflige aux animaux. 44% des Français sont favorables à l'interdiction du gavage des oies et des canards dans la production du foie gras, selon un sondage rendu public par l'Association de défense des animaux L214 en novembre 2009. Pour ceux qui, encore ignorants de la réalité de cette souffrance au quotidien et de ces abus, voire tortures, voilà des faits difficiles à entendre mais pourtant réels. Reste à chacun d'occulter cette réalité ou pas. À peine nés, les jeunes poussins mâles suivent un autre circuit que les femelles. Seuls les mâles sont gavés car ils produisent un foie de meilleure qualité. Les canettes, elles, qui représentent 15 millions chaque année, sont vulgairement éliminées en étant jetées sur un tapis roulant jusqu'à un broyeur. À 3 mois, ces mâles sont enfermés dans des cages de batterie si petites qu'ils ne peuvent plus ouvrir leurs ailes, ou bien entassés dans des parcs collectifs de gavage, 18 sur 3 mètres carrés. Les problèmes d'agressivité sont résolus dès l'âge de 2 semaines. Le bec et les griffes sont coupés. Le bec d'un canard étant son principal organe sensoriel, la douleur durera le temps qu'il survivra aux tortures. Ensuite, concernant le gavage, qu'il soit traditionnel avec un entonnoir électrique enfoncé dans la gorge jusqu'au jabot, ou industriel avec un système sous haute pression, l'horreur du gavage est la même. Seule la cadence change, 1000 canards à l'heure pour le système industriel. Les canards et les oies sont gavés de force avec une nourriture déséquilibrée, du maïs gras, jusqu'à ce que le foie atteigne 10 fois son volume. L'animal ingurgite 2 fois par jour plus de 450 grammes d'aliments, ce qui correspond pour un homme de 70 kg à 2 fois 7 kg de pâte en seulement quelques secondes. Malgré des blessures, comme la perforation du cou ou du jabot, ou des brûlures internes par le maïs trop chaud, les gaveurs continuent la torture, 12 à 15 jours pour un canard et 18 à 24 jours pour une oie. Le gavage terminé, les animaux ont des difficultés à marcher et à respirer, le foie hypertrophié appuyant sur les autres organes comme les poumons. Leur abdomen est très lourd et ils se couchent pour mourir. Les animaux sont donc tués avant d'atteindre le stade où la maladie les aurait conduits à la mort. Va-t-il de soi que le mal insoutenable infligé à ces oiseaux soit insignifiant au point de préférer un moment fugace de plaisir à un peu d'humanité ? S'il vous plaît, mettons un peu de conscience dans nos assiettes. Concrètement, ce qui arrive dans l'assiette du consommateur est un foie malade, provenant d'un animal en mauvaise santé. Car un foie gras, c'est un foie atteint d'une maladie, la stéatose hépatique. Débordé par les kilos de nourriture ingérée de force, il n'arrive plus à traiter à temps la graisse qui s'accumule alors en quantité énorme dans les cellules du foie. Il faut également savoir que le foie est un organe qui filtre les toxines du corps. Le foie gras est donc un bloc rempli de toxines. On y retrouve également les résidus chimiques des médicaments donnés peu avant l'abattage du canard pour traiter les infections induites par le gavage. On entend parfois dire qu'un foie gras n'est pas malade, puisqu'il redevient normal si on arrête de gaver l'oie ou le canard. Pour les oiseaux qui survivent à la période du gavage, et si celle-ci s'arrête à temps, leur foie reprend effectivement une taille normale au bout d'un mois environ. Et alors ? Nos intestins aussi peuvent guérir d'une gastro-entérite. Cela veut-il dire que nous ne sommes pas malades quand nous souffrons de diarrhée, de vomissements et de maux de tête ? Voilà pourtant les étranges conclusions auxquelles aboutissent des scientifiques de l'INRA, dont les études sont financées par les producteurs de foie gras. Au passage, ils oublient de préciser que si on arrête de gaver les oiseaux, ils refusent de manger pendant 15 jours. On entend aussi souvent « Les oies et les canards ne stockent-ils pas de la graisse naturellement avant d'effectuer leur migration ?» Le canard de Barbarie, race dont sont issus la plupart des canards mulards gavés pour le foie gras, n'est pas migrateur. Et de toute façon, les oiseaux migrateurs stockent leur graisse surtout sous la peau, en particulier au niveau de la poitrine, et jamais dans le foie. En plus, l'engraissement avant la migration est modéré pour ne pas trop alourdir l'oiseau et lui permettre de voler correctement. Il existe donc des alternatives au gavage. Les réglementations européennes demandent que des recherches soient entreprises pour développer des méthodes alternatives au gavage et n'autorisent la poursuite de la production de foie gras, et ce uniquement là où elle est déjà pratiquée, qu'à la condition que de telles recherches soient effectivement menées. Les responsables de la filière du foie gras et des chercheurs de l'INRA qui les soutiennent affirment qu'il est impossible de créer des produits alternatifs. Pourtant, à Chicago, après l'interdiction de vente de foie gras dans toute la ville, des restaurateurs ont mis au point en quelques semaines des préparations alternatives au foie gras appelées faux gras. Certains à base de foie de canard non gavé ou de foie de poulet, d'autres à base de pois chiches, d'huile d'olive et de vin de paille. Recette encensée par Phil Vettel, un critique gastronomique du Chicago Tribune. Je cite « En résumé, si vous cherchez votre dose de foie engraissée si proche de l'original que cela n'a aucune importance que ce soit une imitation, dirigez-vous vers le chou. Mais pour une démonstration révélatrice que la cuisine végétarienne peut être diablement plaisante, vous devez absolument essayer la terrine du spiaggia. » Le foie gras est assez répandu en Angleterre, pays connu pour être un plus fervent partisan des droits des animaux que son voisin français. Une pâte obtenue de 50% de foie de volaille élevée en plein air, voilà l'alternative au gavage que proposent les supermarchés Waitrose. Gaïa propose également du foie gras végétarien et la production de ces boîtes respectueuses des animaux est passée de 3 000 à 30 000. Il y a également une petite entreprise espagnole des environs de Séville, Société La Pateria de Souza, qui s'est vue décerner un coup de cœur au Salon international de l'alimentation 2006 pour un foie gras sans gavage aux grandes dames de la filière française. Dans le commerce, plusieurs alternatives sont disponibles, comme des terrines végétales qui se rapprochent du foie gras et qui sont beaucoup moins chères. Vous trouverez des solutions alternatives au gavage, entre autres sur les sites www.stopgavage.com et www.faugras.be. Car n'oubliez pas que c'est vous les consommateurs qui avez le pouvoir de choisir. C'était Les hommes sont des animaux comme les autres, l'émission mensuelle consacrée aux animaux et aux thérapeutiques naturelles. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour découvrir le monde des baleines en compagnie de Dana Evans. Et on retrouvera Eric Darley pour des informations sur les huiles essentielles à utiliser en cas de contusion. Si vous cherchez une idée de cadeau original, vous pouvez visiter la boutique du site de la WWF, qui est la première organisation mondiale de la protection de la nature. Vous y trouverez des dizaines d'idées, et plus particulièrement dans la rubrique « Adoption d'animaux », vous pourrez aider une espèce animale en danger en achetant un kit. Celui-ci contient une peluche, un poster sur l'espèce choisie et les actions que votre don aidera à soutenir, un certificat d'adoption à personnaliser et un bulletin d'adoption durable. Vous pouvez donc dès à présent aider Théodora l'ours polaire, Zuxiong le panda, Soko le chimpanzé, Kiruba l'éléphant ou encore Sua le tigre. Merci de votre écoute, à bientôt sur CFM et bonne fête de fin d'année.
Cette plaie.